Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian.
Donc le cours aujourd'hui, une partie du cours du 18, puisque le 11 novembre, il n'y aura pas cours, est sur le raccourcissement des télomères. J'ai déjà un petit peu parlé parfois comme ça par allusion des télomères. Et la recherche sur les télomères, comme vous le savez, prend son origine sur la question de la protection de l'extrémité des chromosomes, qui est une question très fondamentale, hein, qui a été étudiée aux origines, à l'origine chez la levure, chez le maïs et chez plusieurs organismes protozoaires. Mais en fait, la conservation des mécanismes et des structures font que ces travaux ont ouvert des espaces à un nombre de questions de grande importance médicale. C'est souvent le cas. Je vous rappelle que l'interférence à ARN a été découverte à partir des travaux sur la couleur des pétales de pétunia, la recherche d'un bleu profond, et la rétrotransposition à partir des études sur la variation des couleurs dans l'épi de maïs au sein d'un même épi. Aucun de ces travaux, qui sont extraordinairement riches en applications médicales, n'aurait été financé par un plan anti-cancer ou un programme anti-Alzheimer. En ces temps, hein, c'est pas nouveau d'ailleurs, où les politiques sans distinction de couleur semblent incapables de comprendre la nécessité de préserver et développer la recherche fondamentale, certaines évidences doivent être rappelées. Nous aurons été définitivement distancés par nos voisins, il sera trop tard pour pleurnicher sur notre perte de compétitivité, on se consolera en allant visiter les parcs de loisirs. Les télomères, donc, pour revenir à notre propos réel, mais c'est un propos sérieux parce que je pense qu'on est vraiment en danger d'une certaine façon de ce point de vue. Les télomères sont définis comme l'extrémité des chromosomes linéaires. Ils sont constitués de séquences répétées qui sont protégées par des protéines spécifiques. Chez Sapiens, chez nous donc, la séquence télomérique TTA-GGG est répétée plusieurs milliers de bases, jusqu'à environ 10 kilobases, 10 000 paires de bases, dans le sang du cordon ombilical, ce qui correspond environ à 1500 répétitions de la séquence de base TTA-GGG. Et les complexes qui constituent la chelterine, du terme shelter ou abri, et leur rôle de ces complexes est d'éviter que les télomères soient reconnus comme de l'ADN cassé, hein, et d'empêcher des fusions entre fragments d'ADN. Donc, si vous avez des télomères avec des trucs cassés, vous pouvez faire des fusions, vous avez des fusions chromosomiques, vous avez des aberrations cytogénétiques qui sont évidemment catastrophiques pour la cellule. De nombreuses études ont confirmé le rôle des télomères dans le vieillissement cellulaire, plutôt le rôle du raccourcissement des télomères dans le vieillissement cellulaire. En fait, la machinerie de réplication ne peut aller jusqu'au bout du chromosome. Elle peut encore moins aller au-delà parce qu'elle tomberait de l'autre côté du chromosome. Et donc, elle ne peut pas se reproduire sous elle, d'une certaine façon. Ce fait que la DNA polymérase ou les complexes de réplication arrivent au bout du chromosome, au niveau de ce complexe de réplication, il y a une région sous le complexe de réplication qui ne peut pas être reproduite. Et donc, ça veut dire qu'à chaque division, cette extrémité télomérique diminue de taille. Donc, d'où l'idée que la taille des télomères constitue une horloge moléculaire et qu'au bout d'un certain nombre de divisions, les cellules entrent en sénescence, puis en apoptose, c'est-à-dire en mort cellulaire. Alors, ce n'est pas aussi noir, il existe un mécanisme de compensation qui repose sur une enzyme qu'on appelle la télomérase, qui vient après et qui, comme son nom l'indique, rallonge les télomères. C'est-à-dire qu'une fois que la réplication est terminée, on peut rallonger le télomère. En fait, ce sont Armagnos et Blackburn, Elizabeth Blackburn, qui a découvert en fait les télomérases. On fait une revue dans Nature Génétique assez récente, sur laquelle je m'appuie un petit peu, entre autres. Et il rappelle qu'au-delà des études de départ auxquelles il vient d'être fait allusion, sur la levure, sur le maïs, c'est en fait dans les années 1990 que les télomères ont été considérés dans le contexte des pathologies, et en particulier du cancer, puisque l'activité de la télomérase est augmentée dans la plupart des cancers. Ce qui fait que cette enzyme est une cible pharmacologique importante en oncologie. Ça se comprend assez facilement, puisque les cellules tumorales peuvent se multiplier indéfiniment, hein, alors que normalement, chaque division entraînant un raccourcissement du télomère, eh bien, elle devrait entrer en sénescence, en apoptose, assez rapidement. En gros, au bout de 24 divisions cellulaires. Normalement, au bout de 24 divisions cellulaires, si la télomérase n'est pas active, ça s'arrête. On retrouve le même problème pour les cellules souches, dont les cellules souches neurales, sur lesquelles je vais m'attarder en fin de cours et une grande partie du cours prochain, je pense. Donc, est-ce qu'elles s'épuisent, les cellules neurales, les cellules souches neurales? Est-ce qu'elles sont protégées par une activité de télomérase importante? C'est quelque chose qui est essentiel puisque, comme vous vous en souvenez probablement, faire du sport augmente la prolifération des cellules souches neurales, hein, en jouant essentiellement sur ce qu'on appelle le compartiment d'amplification. Oubliez cette partie basse ici. Donc ici, vous avez des cellules souches qui sont des astrocytes, hein, qui expriment la GFAP. Et puis, une cellule se divise pour donner une autre cellule souche, c'est le principe, et une cellule différenciée qui est un neuroblaste. Et là, vous avez un compartiment d'amplification, et ces cellules vont se transformer en neuroblastes, neurones immatures, et puis neurones matures. Et quand vous courez, quand le rat court, nous aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a une amplification ici du nombre de cellules, et par conséquent, un raccourcissement des télomères, en tout cas à ce niveau-là. À ce niveau-là aussi, probablement, sauf s'il y a des télomérases pour rallonger. Hein. De là à dire que faire du sport est mauvais pour la santé, il y a un pas que je ne vais pas franchir, surtout après avoir déjà suggéré que courir fait des trous dans les membranes musculaires et que penser casse l'ADN. Donc, il ne resterait plus qu'à vous conseiller de fumer le cigare et ce serait le pompon. Donc au début des années 2000, la base génétique d'une maladie appelée dyskératosis congénita, 1, DKC1, fut découverte avec l'identification d'un gène encodant une protéine appelée la dyskérine. Donc il fut démontré assez rapidement qu'il s'agissait d'une sous-unité de la télomérase. Donc c'est un travail très pionnier d'ailleurs, c'est un des premiers travaux qui montre qu'une mutation dans un enzyme impliqué dans l'allongement des télomères peut provoquer des maladies, mais il a été suivi de pas mal de travaux et il y a un très grand nombre aujourd'hui de maladies qui sont expliquées par un problème de télomère. Et toutes ces maladies ont été regroupées sous le terme de telomere syndromes, des syndromes télomériques. Ces syndromes sont prioritairement associés à l'âge et marqués par un vieillissement prématuré, puisque le raccourcissement des télomères est un acquis, entre guillemets, de l'âge. Donc, pour revenir à la structure de base des télomères, la séquence TTAGGG est répétée sur plusieurs milliers de bases, je l'ai déjà dit, est donc recouverte par un ensemble de protéines, les chelterines, que vous pouvez voir ici. Alors, chez Sapiens, il y a environ 6 protéines. Il y a donc le Telomere Repeat Binding Factor, TRF1, que vous pouvez trouver ici, quelque part, oui, ici. Vous avez donc le Telomere Repeat Binding Factor 2, TRF2, un répresseur activateur protéine. Bon, toutes ces protéines ici sont indiquées. Toute mutation dans l'une quelconque de ces protéines peut amener l'apparition d'un syndrome télomérique. Donc ces protéines et leur interaction avec les télomères, vous voyez qu'elles interagissent avec ces séquences répétées TTA-GGG sur une longueur suffisante et nécessaire pour prolonger le bout du chromosome et l'empêcher de déclencher ce qu'on appelle la réponse DNA damage, hein, la DNA damage response, et de subir une dégradation ou de participer à des événements que j'ai déjà mentionnés comme la fusion chromosomique. Donc, à ce complexe s'ajoute un autre complexe qu'on appelle le complexe CST, que vous pouvez voir ici, en fait, qui comprend trois protéines, dont j'ai cité les noms ici, qu'en fond, ce n'est pas tellement important. En fait, la fonction de ce complexe est pour l'instant encore assez mal connue, même si des mutations dans ce complexe sont à l'origine de certains syndromes télomériques. Alors, la télomérase est une enzyme vraiment intéressante. Il s'agit d'une DNA polymérase, donc d'une enzyme qui synthétise de l'ADN, mais elle synthétise l'ADN et elle rajoute de nouveaux motifs télomériques au bout du chromosome. Elle a deux composantes qui sont extrêmement conservées. La télomérase elle-même, ou TERT, qui a une activité transcriptase réverse, c'est-à-dire qu'elle fait prendre l'ARN et le transforme en ADN. C'est une réverse transcriptase, hein, la télomérase, ce n'est pas une DNA polymérase classique. Donc elle fait de l'ADN à partir de l'ARN, et puis elle a un composant ARN, bien entendu, qu'on appelle TERC, que vous voyez ici. Donc ça, c'est l'ARN qui va servir de template pour que la reverse transcriptase puisse aller traduire cet ARN, transformer cet ARN en ADN et rallonger l'extrémité des télomères. Donc ces complexes ribonucléoprotéiques, donc qui ont de l'ARN et des protéines, sont présents dans une structure nucléaire qu'on appelle le corps de Caral, Caral bodies. Alors, d'autres protéines que j'ai notées ici, on connaît moins bien leur rôle est probablement moins important. Elles sont aussi associées à ce complexe et pas que j'oublie de passer parce qu'après je me perds. Elles sont aussi associées à ce complexe. Et des mutations dans, elles sont indispensables pour stabiliser l'ARN et nécessaires pour stabiliser l'ARN donc dans sa structure et nécessaires à l'activité reverse transcriptase. Donc je passe sur plusieurs autres composants, mais il est évident une fois plus que n'importe quelle mutation touchant n'importe quel de ces composants va avoir des effets plus ou moins importants sur l'activité enzymatique et donc sur le maintien de la longueur des télomères qui est nécessaire à empêcher la cellule de vieillir au fur et à mesure de sa division. Donc l'élongation des télomères est régulée de façon fine hein, entre les phases S et M du cycle cellulaire, c'est-à-dire entre le moment où je synthétise de l'ADN et le moment où je fais la mitose, c'est-à-dire que je fais deux cellules à partir d'une cellule. Alors les télomérases n'activent pas, ne réparent pas tous les télomères. Les télomérases, ça c'est un truc très important, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, les télomérases allongent les télomères les plus courts, et donc à chaque cycle cellulaire, tous les télomères ne sont pas allongés de façon égale. Ce sont les télomères les plus courts, d'ailleurs, qui déclenchent la réponse de la télomérase, c'est-à-dire son recrutement. La question de la recrutement de la télomérase au niveau de l'extrémité du chromosome est un problème en soi, que je ne vais pas traiter parce que ça nous sortira un tout petit peu du sujet, qui est quand même la longévité. Mais le télomère le plus court est important. Ce qui est moins important, c'est la moyenne des longueurs des télomères dans une cellule. Hein, vous avez quand même évidemment plusieurs télomères parce que vous avez plusieurs chromosomes. Donc, dans ce processus donc, de reconstruction des télomères, il y a deux points à considérer. C'est la stoichiométrie entre le nombre de télomères et le nombre de molécules de télomérase. Et puis le fait que tous les télomères ne sont pas des cibles de la télomérase, ce sont essentiellement les plus courts qui déclenchent. Donc, même dans des cellules qui sont extrêmement riches en télomérase, et en particulier les cellules souches hématopoïétiques, celles qui refont tous les lymphocytes, les cellules sanguines, et qui sont dans la moelle osseuse pour l'essentiel, eh bien, même dans ces cellules-là, qui sont très riches en télomérase, les télomères raccourcissent à chaque division cellulaire. Alors, il y a une exception qui est notable, c'est celle des cellules souches germinales mâles humaines, chez lesquelles on peut observer une stabilité, voire un allongement avec l'âge de la longueur des télomères. C'est une anomalie, et pourquoi et comment, ça reste pour l'instant un mystère. Donc, je l'ai déjà signalé, des travaux récents démontrent l'importance des télomères dans plusieurs pathologies humaines, non seulement au cours de l'enfance, mais aussi chez l'adulte. Alors, certains de ces syndromes ne peuvent se déclarer qu'extrêmement tardivement, après 50 ans, voire après 90 ans. Donc ça va. En particulier, une maladie qu'on appelle la fibrose pulmonaire idiopathique. Je ne vais pas entrer dans le détail des maladies qui ont été répertoriées à ce jour, Parce que pour l'essentiel, elle ne touche pas notre organe préféré, qui, comme vous le savez, est le cerveau. Je me pencherai pour cet organe, essentiellement, vous verrez, sur les cellules souches neurales, qui quand même posent un véritable problème du point de vue de la cognition, puisque nous savons que cette neurogénèse adulte est extrêmement importante pour le maintien de notre acuité intellectuelle et cognitive. Donc cette réflexion sur les cellules souches neurales au cours du développement et chez l'adulte s'impose et nous allons nous y pencher à partir d'un petit nombre d'articles bien choisis et qui traitent de cette question. Donc ces études sont, je dis un petit nombre parce que ces études sont assez peu nombreuses, c'est vrai. Elles sont peu nombreuses sans doute parce que l'existence de ces cellules n'est reconnue que depuis peu, du fait de la résistance à l'idée dont nous avons parlé dans les années précédentes, à l'idée que le cerveau n'est pas une structure pérenne. L'idée que le cerveau est le siège d'une reproduction à l'aide de cellules souches neurales, en particulier au niveau de l'hippocampe et du bulbe olfactif, est quelque chose qui est récent. Je reviendrai sur cette histoire du bulbe olfactif plus tard parce qu'il y a des données contradictoires chez l'homme. Heureusement, vous en souvenez, je pense, certains collègues qui s'intéressaient au chant des oiseaux ont permis de remettre sur le devant de la scène les prothèses qui avaient été proposées dès 1964 par Altman de la neurogénèse adulte. Donc là, je vous renvoie au cours des années précédentes, ou bien vous pouvez poser des questions, ce n'est pas interdit, c'est même souhaitable. Je sais que cet amphithéâtre ne s'y prête pas énormément, donc malheureusement, on ne tient plus en Halvax. Donc, il reste que tous les travaux indiquent qu'une des premiers signes de la maladie d'Alzheimer est la perte de l'odorat. Donc, étant donné le rôle qui est joué par la partie soluble du précurseur de la protéine amyloïde dans la prolifération des cellules de la zone subventriculaire, celle qui renouvelle les neurones du bulbe olfactif, enfin deux populations de neurones, ça c'est une diapositive que j'ai déjà montrée, où on voit que la partie soluble du l'APP, donc du précurseur de la protéine amyloïde, qui peut donner, qui quand il est muté, peut entraîner des maladies de type Alzheimer, eh bien, cette molécule a un rôle important dans la prolifération des cellules souches neurales. Donc ça peut expliquer, et on ne peut pas exclure qu'un raccourcissement des télomères dans ces cellules souches neurales adultes se trouve à l'origine de certaines formes sporadiques de la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas l'exclure, mais on ne peut pas non plus l'affirmer, parce que des travaux récents du groupe de Friesen, dont je vais vous montrer quelques données, suggèrent que les neurones du bulbe olfactif, contrairement à ceux de l'hippocampe, ne sont pas renouvelés chez les sapiens, à la différence de ce qui se passe chez les rongeurs. Mais je ne suis pas absolument persuadé que l'affaire soit totalement close à ce jour, donc on va voir. En plus, il n'y a pas que, vous verrez, ce n'est pas uniquement la prolifération cellulaire qui est affectée par le raccourcissement des télomères, il y a aussi la morphogénèse des neurones qui est modifiée par le raccourcissement des télomères. Donc, je vais vous rappeler maintenant, et très brièvement, quelques maladies qui se déclenchent dans l'enfance et qui sont liées à des désordres des télomères. Donc, elles sont incluses dans la liste que vous avez ici. C'est pas la peine, je vous la laisse un petit peu, vous pouvez la regarder, c'est pas la peine de la prendre. De toute façon, comme vous le savez, tout le cours et toutes les diapositives seront mis sur le site du Collège de France à la fin du cours. Donc, vous aurez accès à tous les documents. Et le cours étant écrit, vous l'aurez aussi. Donc, je vais pas entrer dans les détails qui sont pas forcément plaisants. J'aime pas montrer des photos de gens malades. Je voudrais quand même signaler que le syndrome de Hoyer-Hall-Herr Reiderasen, je ne sais pas comment on dit, outre un délai développemental et une déficience immunitaire, c'est souvent le cas parce que les cellules du système immunitaire sont en renouvellement permanent, comme vous le savez, montre aussi une hypoplasie, c'est-à-dire un développement réduit du cervelet. Il y a aussi un autre syndrome qui s'appelle le Reves syndrome qui nous concerne parce qu'il est marqué par une atteinte des vaisseaux de la rétine. Et pour ce qui est des déclenchements adultes, il semble épargner le système nerveux. Mais on l'aura sans doute compris, ce n'est pas si clair ni si définitif que ça, et j'y reviendrai au cours de cette séance et peut-être de la séance prochaine. Alors, dans le contexte des télomères et des maladies liées à l'âge, Je vais m'appuyer maintenant sur l'article de Marie Armagnos dans JCI, dont vous aurez la référence aussi si vous allez sur le site. Après vous avoir rappelé que la longueur des télomères parentaux détermine celle des enfants, chez les souris comme chez les humains. Il y a une hérédité de la longueur des télomères, et donc on peut penser qu'il y a aussi une hérédité de la longévité. Donc cet auteur souligne que quand les télomères atteignent une taille critique, courte donc, ça active la réponse de type cassure d'Aéden, qui ressemble à celle qui suit la formation de cassure double brin de l'ADN. Alors j'y reviens pas parce que je vous avais déjà beaucoup embêté avec les histoires de cassure double brin, mais c'était pas tout à fait par hasard. Et il en résulte une mort cellulaire, une apoptose, ou un arrêt permanent du cycle, qui, pour ce qui est des cellules qui normalement prolifèrent, correspond en fait à ce qu'on appelle une entrée en sénescence. L'entrée en sénescence est le plus souvent suivie d'une mort cellulaire. En fait, les cellules qui entrent en sénescence présentent aussi une forte activité de leur expression génétique, de ce qu'on appelle leur transcriptome. Et ça amène la sécrétion de molécules qu'on appelle des cytokines, les chémokines, et aussi de protéases. C'est un phénotype qui est connu sous le nom de Senescence Associated Secretory Phenotype, SASP, qui joue un rôle dans l'élimination des cellules sénescentes, mais aussi a une action sur d'autres types cellulaires. Si je reviens au schéma général que je vous avais donné, vous allez voir assez souvent maintenant le départ, c'est ici que se situe cette question des interactions entre les cellules. Et donc la sécrétion des chémokines au moment où j'arrive en sénescence, où j'ai épuisé mes cellules souches par exemple, ou quand j'arrive en sénescence dans les cellules post-mitotiques ou des cellules souches qui arrêtent de se diviser, alors je peux sécréter des chémokines, et là ça va provoquer des modifications de la communication cellulaire, mais aussi des processus de type inflammatoire. Donc il y a, vous le verrez, des liens énormes, des interactions énormes entre ces différents 9 secteurs qui peuvent être pris en compte dans la question de ce qu'on appelle le vieillissement en bonne santé ou en mauvaise santé. Donc le dysfonctionnement des télomères est donc associé avec une diminution aussi du métabolisme énergétique, une baisse de la sécrétion d'insuline, donc de l'homéostasie glucidique, ça fait partie de cette partie-là. Comme je soulignais le 7 octobre, quand on a ouvert ce cours, les principaux items de cette diapositive sont en interaction. À propos des télomères, là, je viens de parler d'apport des télomères, d'instabilité génétique, DNA réponse. Vous verrez qu'on pourra parler d'altération épigénétique. Je viens de parler du système qui permet de sentir la concentration de nutriments comme le glucose, par exemple, dans le sang. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais j'en parlerai plus tard. Je vous ai parlé de la sénescence. Je vous ai parlé ici l'exhaustion, de l'épuisement des cellules souches et la modification des communications cellulaires. Donc, en fait, tous ces 9 items sont en interaction et sont coordonnés d'une certaine façon dans ce qu'on appelle le vieillissement, qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit en mauvaise santé. Donc sur cette intégration, j'en reviendrai dans le dernier cours probablement, pour essayer de vous donner une idée un petit peu globale de comment les choses se passent, le dernier cours qui aura lieu donc le 18 novembre. Donc, les maladies qui sont liées au raccourcissement des télomères sont classiquement divisées entre les tissus à renouvellement rapide, les tissus à renouvellement lent. Donc il y a des tissus à renouvellement rapide, comme les cheveux, les ongles, rappelez-vous donc le système immunitaire, le système hématopoïétique, l'intestin. Vous savez que dans l'intestin, vos grêles, je vous le dis souvent, vous en changez tous les 5 jours, donc ça veut dire qu'il y a énormément de prolifération. Et puis il y a des tissus à turnover plus lent. Et puis dans un même tissu, il peut y avoir des cellules qui se reproduisent rapidement et d'autres qui se reproduisent lentement, ou pas du tout, puisque nous avons des neurones qui ne se reproduisent pas du tout, qui sont là pour l'éternité, entre guillemets, dans notre cerveau. Donc les désordres des tissus à renouvellement rapide apparaissent plus tôt, bien entendu. et avec des formes plus sévères, bon, c'est le cas des déficiences immunitaires, des maladies du système digestif. Et dans les tissus à renouvellement plus lent, comme le poumon, comme le foie, les maladies se révèlent plus tardivement et les mécanismes impliqués, même s'ils mènent à l'apoptose et à la sénescence, sont différents. Cette différence d'apparition tient au fait que plus une cellule se divise, évidemment, plus elle raccourcit ses télomères, et donc plus elle est dépendante de l'activité télomérase. Cela indique très clairement que les cellules souches, ou leur compartiment d'amplification, il ne faut pas oublier que les cellules souches ne se divisent pas rapidement, hein. Elles ont la plupart du temps un compartiment d'amplification, sont en première ligne quand il s'agit de longévité. Donc avant d'en arriver au système nerveux proprement dit, je vais vous faire un lien entre le stress au début de l'existence et la longueur des télomères. Alors là, je vais vous renvoyer à un article de Chaleff, qui a été publié en 2012 dans BioEssai. Vous verrez la référence. Voilà, ici. Hein. On sait qu'un stress au début de la vie peut avoir des conséquences extrêmement importantes et négatives sur la santé aux périodes ultérieures de l'existence. Cela implique des modifications durables des structures biologiques, modifications dont une composante épigénétique est évidente, hein, sinon ça ne durerait pas. Il existe énormément d'études aujourd'hui, qui sont très intéressantes d'ailleurs, même si elles ne sont pas abouties complètement, qui s'efforcent de caractériser de telles modifications épigénétiques dans des cas de ce qu'on appelle le child abuse, et qui conduisent à des tendances suicidaires plus tard dans l'existence ou à la reproduction de conduites abusives une fois que l'âge adulte a été atteint. Donc il y a plein de gens qui ont des banques en fait, de suicidés, de cerveaux de suicidés, et qui essayent de voir dans certaines structures comment, s'il y a des modifications épigénétiques qu'on peut associer à un suicide qui serait lié à un traumatisme au cours du développement embryonnaire ou au cours de l'enfance, des stress qui sont évidemment liés à l'environnement de l'enfant, y compris l'environnement familial d'ailleurs. Donc selon cet auteur, des télomères plus courts et subissant une érosion plus rapide sont associés à un risque élevé de morbidité et de létalité. Il semble par exemple que des individus de plus de 60 ans, avec des télomères courts au niveau des cellules sanguines, présentent un plus haut risque de mortalité associé à des maladies cardiaques ou infectieuses. Et inversement, des études faites sur des centenaires et leurs descendants suggèrent que les télomères de leurs leucocytes sont plus longs en moyenne que ceux d'individus contrôle. Les télomères longs ont aussi été associés à une protection contre des maladies liées à l'âge, dont certaines détériorations cognitives. Donc vous pouvez faire mesurer vos télomères si vous voulez savoir. On n'a pas forcément envie de savoir. Donc plusieurs travaux qui ont été publiés depuis 2010 suggèrent un lien donc, entre le stress au cours de l'enfance et le raccourcissement des télomères dans les cellules sanguines. Alors, ces études sont fragiles. Et parfois, elles sont démenties. Et elles sont fragiles parce qu'il y a de grandes limitations à ce type d'études. Il y en a trois, à mon avis, qui sont particulièrement importantes. D'une part, les faits, le stress, par exemple, un abus sexuel, sont le plus souvent rapportés par l'individu lui-même, qui dit les avoir subis et peuvent être sujets à caution, toujours. D'autre part, on ne peut pas suivre le raccourcissement des télomères dans la durée, et surtout tout au long de la période qui sépare le stress du stade adulte auquel les cellules ont été prélevées. En fait, du fait même de cette durée et des conditions de vie, par exemple une santé altérée à la suite de la perturbation au cours de l'enfance, peut avoir un effet sur le raccourcissement de la longueur des télomères. Donc ce raccourcissement pourrait être une conséquence de ces conditions qui sont ultérieures au stress lui-même qui a détérioré les conditions de vie. Alors de ce point de vue, il faut faire ce qu'on appelle des expériences longitudinales, récentes, qui ont été faites d'ailleurs récemment, sur des enfants exposés à un environnement violent. Il y a une étude comme ça qui est assez intéressante. Elle suggère que les effets du stress sont cumulatifs et donc supérieurs chez les individus ayant subi plusieurs types de violences, familiales, à l'école, enfin, vous voyez, avec une forte érosion de la longueur des télomères. Et ça, c'est par des prélèvements qui ont été faits dans la muqueuse buccale entre 5 ans et 10 ans. Alors, les données vont dans le sens d'une corrélation, sont toujours des corrélations, bien entendu, et les mécanismes restent plutôt difficiles à identifier. Et là, si je suis les auteurs, ceux-là, il faudrait identifier le lien, si vous voulez, entre ce stress infantile, stress tout court et raccourcissement accéléré des télomères, avec une focalisation sur les modifications génétiques et épigénétiques. Donc là, vous avez dans Donc, une voie de recherche qui est en cours actuellement, ce qui est la maturation du système immunitaire cérébral. Vous savez que nous avons des macrophages cérébraux, nous avons un système immunitaire cérébral avec l'application possible de processus inflammatoires et du stress oxydatif au niveau cérébral. Donc là, c'est un petit peu indiqué par ce travail qui a été publié en 2012, qui est un essai, fondé sur des données, mais qui est en grande partie interprétatif, et qui montre tout ce qui peut se passer au niveau de raccourcissement des télomères, avec le vieillissement cellulaire, l'inflammation, le stress qui joue un rôle important, en particulier le stress oxydatif, le cassure d'ADN, etc., les dysfonctions mitochondriales. Donc, ce sont des travaux qui sont en cours. Il faut leur attribuer l'importance qu'elles ont, mais en fait, c'est une voie de réflexion que je pense est assez intéressante. La réponse inflammatoire est induite par le stress, on le sait. C'est observé chez les enfants, de même qu'il est observé que des stress dans l'enfance augmentent chez l'adulte la réponse inflammatoire à un stress psychologique. L'inflammation est associée à une augmentation de la prolifération des cellules immunitaires et donc pourrait expliquer très simplement le raccourcissement des télomères dans les cellules du système immunitaire si elles sont souvent utilisées, si c'est une grande prolifération. On ne peut pas non plus ignorer que le raccourcissement des télomères, et ça je vous en parlais, et l'entrée en sénescence entraîne la sécrétion des interleukines et chémokines, et donc la réponse SASP qui amplifie le phénomène. Donc c'est une sorte de cercle vicieux qui peut se mettre en place et qui entraîne une érosion des télomères. Donc tout ça évidemment avec un lien avec la cassure de l'ADN que vous voyez ici et l'activité mitochondriale. En fait, cet article indique beaucoup de pistes, mais moi m'a laissé un peu sur ma faim en soulevant plus de questions encore, à commencer par la caractérisation des types de stress, la méthode de mesure de la longueur des télomères dans une population de chromosomes et surtout le type cellulaire qui a été choisi pour effectuer cette mesure. Cela ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser d'une question à laquelle nombre d'études y sont consacrées. Et là je vous montre par exemple un échantillon de ces études. Ça c'est un travail, trois publications dans le PNAS entre 2011 et 2012, avec quelqu'un qui s'intéressait au développement neuronal en réponse à des enfants qui ont été institutionnalisés tôt dans leur vie. Là, l'effet de la séparation maternelle sur la réponse hormonale et le comportement chez les singes adultes, les rhésus. Et puis ici, c'est carrément des stress intra-utérins qui sont associés avec des télomères plus courts chez le jeune adulte. Et je vous rappelle que le stress intra-utérin peut avoir des conséquences sur le développement de maladies psychiatriques. Rappelez-vous, l'année dernière, on a beaucoup discuté. Oui ? Vous pouvez parler plus fort parce que sinon je ne comprends rien, moi. Je suis sourd. Oui, enfin, je ne suis pas au courant. Mais l'année dernière, on a pas mal discuté, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus très bien, les questions de l'activation des réponses immunitaires chez la mère. C'est-à-dire tout le travail de Paul Patterson et des gens qui travaillent sur le même thème, qui montrent que si on déclenche une réponse de type interleukine 6 ou TNF au cours du développement, alors on a des modifications de la structure cérébrale, et en particulier du développement cérébral chez l'embryon, avec la possibilité de développer des mécanismes de type maladie psychiatrique. Les modèles animaux chez le rat en particulier ou chez la souris ont montré que quand on injecte par exemple du poly-RIRC chez la mère vers E14,5, E16 chez la souris, et qu'ensuite on prend les petits qui naissent et qu'on leur fait des tests du genre PPI, enfin des tests qui sont des tests entre guillemets, c'est toujours pareil, maladie schizophrénie, avec ce que ça veut dire, on voit qu'ils ont une diminution de la prepulse inhibition, des choses comme ça, et que ça, c'est lié vraiment à la réponse inflammatoire chez la mère. Donc, Si vous êtes intéressé à ça, moi, je vous renvoie aux travaux de Patterson. C'est probablement ce qui a été fait de mieux dans les dernières années sur cette question, qui est une question vraiment intéressante. Donc, ce sont des... Et maintenant, il y a des gens qui, je dis, qui prennent des banques de cerveaux de gens qui se sont suicidés et dont on a une histoire, si vous voulez, longitudinale des stress au niveau de l'enfance précoce, pour aller regarder dans certaines structures particulières du système nerveux s'il n'y a pas des modifications reproductibles de méthylation, des CPG qui contrôlent l'expression de certains gènes, etc. Donc, c'est une tendance assez lourde aujourd'hui, et je pense que c'est une tendance assez intéressante, même si évidemment, ça reste extrêmement dangereux de tirer des conclusions et de les généraliser à l'ensemble de population. Nous sommes tous un tout petit peu traumatisés par l'existence. Donc, bon, j'y revenir peut-être des prochaines années, d'ailleurs, parce que c'est un sujet sur lequel je lis beaucoup actuellement. En attendant, je vais m'attarder sur quelques articles qui se concentrent sur des cibles qui me paraissent importantes, quand on parle surtout de troubles mentaux, c'est-à-dire, j'y reviens, j'annonce toujours les trucs longtemps à l'avance, et je me répète beaucoup, mais bon, et c'est le souche neural. Même si je ne veux pas éliminer, même si je dis que j'en parlerai pas, que j'en parlerai dans des cours ultérieurs, je ne veux pas éliminer, évidemment, les questions des macrophages cérébraux ou des microglies en relation avec la réponse immunitaire et l'inflammation. En relation aussi, comme je viens de le dire, en réponse à votre question, avec la question des troubles psychiatriques qui seraient liés à des problèmes développementaux. Donc, le premier article dont je vais vous parler est un article qui est un petit peu à part. Il traite du lien possible entre neurogénèse, télomère et schizophrénie. Donc, je vais d'abord revenir un peu sur la question de la neurogénèse adulte, chez les humains tout particulièrement, au niveau de l'hippocampe. Donc, l'hippocampe, c'est ça, hein. C'est une structure qui est le siège d'une neurogénèse importante, dont on sait, et là je ne vais pas revenir sur les cours précédents, qu'elle est impliquée dans de grands nombres de fonctions cognitives. Hein. Donc là, cette diapositive est là pour vous rappeler que les cellules glutamatergiques de l'hippocampe, en particulier dans ce qu'on appelle le gyrus denté, se renouvellent et que ce renouvellement peut être modulé par le comportement. Hein. Rappelez-vous l'histoire de la course à pied, par exemple, qui va augmenter la prolifération au niveau du comportement d'amplification et augmenter donc le nombre de neurones qui sont générés à partir des cellules souches. Donc, il y a eu des travaux sur les problèmes de dépression, comme vous savez, choses qui ont montré que les antidépresseurs, certains dépresseurs, eh bien, au bout d'un certain temps, ont une action qui pourrait passer, ces travaux de René Haine à Columbia, qui pourrait passer par une régulation de la prolifération de la neurogénèse dans l'hippocampe. Hein. Donc, ce renouvellement, qui est évidemment présent chez l'adulte, c'est ça qui nous intéresse, a été quantifié par le groupe de Jonas Friesen, que j'ai annoncé tout à l'heure, dans un papier que je vais vous commenter, et qu'il a été lui-même commenté par un News and Views dans le numéro de Cell qui a été publié en 2013. Donc le commentaire que je vais commenter commence par rappeler l'histoire de la découverte de la neurogénèse adulte et des résistances. Hein, vous vous en souvenez que cette découverte a rencontré, je n'y reviens pas, j'en ai parlé en 2010. Mais même si le fait de la neurogénèse est aujourd'hui acquis, je crois, il y a deux questions qui restent en suspens, ou qui restent en suspens, je pense qu'elles le restent toujours. Il y a celle de l'impact de ce renouvellement et celle de son déclin éventuel au cours du vieillissement. Est-ce que notre neurogénèse baisse au fur et à mesure que nous vieillissons? C'est une bonne question. Et pour évaluer l'étendue de la neurogénèse chez les humains, les auteurs ont utilisé une technique qui est assez drôle, en fait. C'est assez astucieux. Elle leur avait permis de publier en 2012 que les neurones du bulbe olfactif ne sont pas renouvelés chez l'adulte, sapiens en particulier, ou très peu, contrairement à ce que l'on constate chez la souris ou chez le rat. Donc cette technique, elle repose sur le fait que pendant les essais nucléaires à l'air libre entre 1955 et 1963, il y avait dans l'atmosphère des hauts niveaux de carbone 14, de carbone radioactif. Et donc, via la nutrition, entre 1955 et 1963, les essais à l'air libre ont été interdits. On n'a plus fait que des explosions nucléaires souterraines. Mais pendant cette période de 8 ans, on a tous pris du carbone, donc radioactif. Et les niveaux ont commencé à baisser à partir de 1963, à mesure que le CO2 atmosphérique devenait de moins en moins radioactif. Le CO2 atmosphérique qui rentre évidemment dans la chaîne alimentaire à cause de la photosynthèse. Donc, le 14 carbone étant incorporé dans l'ADN, au cours de la division cellulaire, ça a permis de dater et de mesurer le taux de prolifération des cellules. Donc, la première surprise, si vous voulez, qui est venue, c'est que, contrairement à ce qu'on observe chez le rat ou chez la souris, chez qui la neurogénèse diminue avec l'âge, l'hippocampe humain génère des neurones dans le gyrus denté à un taux assez constant jusqu'à des âges avancés. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Vous voyez, ça, c'est la neurogénèse dans le gyrus denté. Bon, ça diminue un petit peu, mais en gros, ce n'est pas très, très différent entre un jeune homme, même très jeune, et un moins jeune. Hein. Donc, ça, c'est... Alors, la chose qui est étonnante, c'est qu'il semble dire qu'il n'y a pas de neurogénèse dans le bulbe. Bon, c'est possible. Hein. Bon, ça mérite d'être vu. Donc, tous les cellules du gyrus denté sont sujets au renouvellement. Ce n'est pas seulement une sous-population qui est en cause. Et les mesures et les modélisations qui ont été faites par ce groupe suédois suggèrent qu'on a environ 700 cellules qui sont renouvelées par an, soit un turnover de 1,75% de nos neurones dans l'hippocampe, avec, comme vous le voyez, un modeste déclin au cours du vieillissement. Donc, bon, comme je vous le rappelle, on voit un renouvellement nul dans le bulbe olfactif, mais pour ce qui est du denté de gyrus, on voit une baisse énorme chez les rongeurs, encore qu'évidemment, ça part d'un niveau plus élevé. Donc, et puis les rongeurs ont des durées de vie beaucoup plus courtes que les nôtres. Donc, ce qui se passe entre 0 et 3 ans chez un rongeur, ce n'est peut-être pas forcément projetable sur ce qui se passe entre 0 et 100 ans chez un sapiens. Donc, ces comparaisons entre espèces sont évidemment délicates. Et je crois que ce serait vraiment intéressant d'avoir les mêmes données sur d'autres primates que nous. Il reste qu'on peut se poser la question de la fonction de ce renouvellement, bien entendu, et de la porte qu'il ouvre pour des interventions thérapeutiques concernant les troubles cognitifs et psychologiques liés ou non d'ailleurs au vieillissement. Donc cette constatation quand même réconfortante nous ramène au télomère et aux quelques articles que je vais maintenant vous présenter. Donc, ce sont des articles qui sont intéressants, mais ils se fondent sur des modèles animaux. Et nous venons de voir que tout ce qui est vrai pour l'humain ne l'est pas forcément pour la souris et réciproquement. Donc, il faut faire extrêmement attention quand on prend des données chez les rongeurs et qu'on voudrait projeter chez nous. Ça ne marche pas forcément. Donc, c'est ces choses qu'il faut toujours avoir en tête quand on s'intéresse aux pathologies, qui sont des pathologies proprement humaines. Ce qui est le cas d'ailleurs pour le premier article, puisque nous penchons sur un modèle murin de schizophrénie. Alors, je ne reviens pas sur ce que je vous ai raconté au cours des deux dernières années. Et les difficultés qu'il y a à comprendre la signification réelle des modèles animaux, hein, ce qui veut dire des limites de ces modèles animaux quand il s'agit de maladies psychiatriques aussi complexes que la schizophrénie, ou plutôt que les schizophrénies, puisqu'on ne connaît pas vraiment l'étiologie de toutes les formes de schizophrénie qu'on peut répertorier sur en fait, un phénotype. Hein. Donc le premier article... qui a été publié dans Brain Behavior and Immunity en 2011, part d'un modèle murin de schizophrénie qui consiste justement, madame, en l'injection de poly-RIRC pendant la gestation. Donc, quand on fait ça, on induit une inflammation maternelle qui touche l'embryon selon le modèle que j'ai discuté en 2011 et 2012 à propos des travaux de Paul Patterson. Donc, les auteurs partent de l'observation de changements qui sont positifs dans les symptômes de patients à la suite de programmes d'exercice physique. Ils spéculent aussi, à partir de papiers théoriques, liant certains symptômes de la maladie à la physiologie de l'hippocampe et à la neurogénèse adulte dans l'hippocampe. Ils proposent qu'un raccourcissement des télomères dans les précurseurs neuraux pourrait avoir un rôle dans la maladie. Alors, il est connu que la télomérase, TERT, hein, dont je vous ai parlé il y a un petit moment, est très fortement exprimée dans les cellules souches neurales, dans les précurseurs, au cours du développement, bien entendu, mais aussi chez l'adulte. Et là, de nouveau, je me réfère aux rongeurs, hein, pour l'instant. Donc, chez les souris qui ont une faiblesse au niveau de leur télomérase, qui sont faibles en TERT, les télomères raccourcissent avec l'âge et la neurogénèse est interrompue dans les cellules souches neurales de la zone subventriculaire. Parallèlement, les comportements qui dépendent de la neurogénèse, hein, y compris de celle qui a lieu dans l'hippocampe, sont affectés. Finalement, toujours dans le sens de l'hypothèse, mais de façon encore plus directe, il existe des publications qui documentent un raccourcissement accéléré, ils raccourcissent avec l'âge des télomères, dans les leucocytes périphériques de patients qui souffrent de troubles de l'humeur ou de schizophrénie, avec pour ces derniers une forte diminution de la télomérase. Alors, 50 jours après l'injection de poly-RIRC qui provoque une réponse inflammatoire dans l'embryon, maintenant 50 jours, ils sont grands, les animaux ont été soumis à un test de course volontaire sur la roue, hein, et puis un test qu'on appelle le prepulse inhibition, qui est un test qui mime, si vous voulez, les modèles animaux de schizophrénie. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous donnez un coup de trompette, l'animal il saute, bien entendu. Mais si après vous donnez un petit coup de trompette qui va annoncer le grand coup de trompette, il saute moins quand il y a le deuxième gros coup de trompette. On appelle ça le prepulse inhibition parce qu'on fait un pulse avant, prepulse. Et ça inhibe la réponse de sursaut maximale de la bestiole. Et quand on a une baisse du prepulse inhibition, ça s'associe avec des troubles psychiatriques, ou en tout cas avec ce qu'on pense, c'est des troubles psychiatriques, en tout cas chez la souris. Hein. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un signal qui est plus faible, disons 68, 72, 76, 80 décibels, et ça diminue la réponse de sursaut au signal qui est plus fort, qui est un test de 100 décibels, et ultérieur, 30 à 50 millisecondes après le premier test. Hein. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est que si vous regardez l'animal ici, qui a eu une inflammation au cours de son développement, et vous voyez qu'il a une baisse de son prepulse inhibition, c'est-à-dire qui est relativement forte d'ailleurs par rapport à un animal normal. Mais si vous le faites courir, vous voyez qu'il récupère un comportement normal. Et puis, l'animal contrôle, lui, rien ne lui fait rien. Et ça, quelle que soit la force du prepulse, 68, 72, 76 ou 80 décibels. Donc ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'en sais rien. Ça veut dire que l'exercice physique, ici, la course dans une roue, c'est une course libre. On leur met des roues dans la cage et puis ils courent autant qu'ils veulent. Donc, voilà. Donc le sport n'est pas si négatif que ça en l'occurrence. Donc l'exercice physique a effacé, si vous voulez, dans ce test-là, bien entendu, tout ça est très limité, la déficience qui a été liée à l'inflammation provoquée par l'injection de poly-RIRC. Ce que le panel C vous démontre ici, c'est que les souris sont normales sur le plan moteur. Hein. En fait... elles se déplacent gentiment, etc. Sauf là, qu'il y a un test où elles se redressent sur leurs pattes et elles regardent, qu'il y a un test qui est censé mesurer une sorte de forme de déorientation. Vous voyez que dans cette affaire, les souris sont hyperactives et désorientées. On le voit au nombre de redressements, mais que la course à pied, soit ça les fatigue, elles n'ont plus envie de se lever, mais en fait, ça les ramène à quelque chose qui est de l'ordre du normal. Vous voyez ici qu'on revient dans la normale. Donc, voilà, on en fait ce qu'on en veut, mais je pense que ce n'est pas totalement inintéressant. En tout cas, ça fait un lien entre cette inflammation et puis cette course physique, dont on sait évidemment qu'elle... Alors, ce qu'il aurait fallu, évidemment, c'est bloquer la prolifération cellulaire. C'est dommage que ça n'ait pas été fait. Donc, étant donné l'effet bénéfique du sport chez les souris, les auteurs ont mesuré la neurogénèse au niveau de l'hippocampe. Et ils ont déterminé le nombre et le phénotype des cellules nouvellement générées 4 semaines après la dernière injection de BRDU. Donc la BRDU, je vous rappelle, c'est un analogue de la thymidine qui s'incorpore dans l'ADN. Donc quand les cellules prolifèrent, elles intègrent du BRDU. Et à ce moment-là, on peut voir, il y a des anticorps dirigés spécifiquement contre le BRDU qui permettent de visualiser les cellules qui se sont reproduites. Et si on le fait longtemps après, on peut voir où elles sont allées. Par exemple, est-ce qu'elles sont allées dans le bulbe olfactif, est-ce qu'elles ont envahi l'hippocampe, etc. Donc ça, c'est jouable. Donc ils ont fait ça 4 semaines après la dernière injection de BRDU. Ils ont regardé. Et à la fin de la période de course, ils ont le droit de courir pendant 10 jours. Hein. C'est pas mal. Donc ils ont fait des doubles marquages entre BRDU et la nestine, c'est des cellules souches. BRDU et DCX, ce sont des neurones. DCX sont des neurones qui sont à ce niveau-là, qui sont donc des neurones qui ont commencé à se différencier. Ils ont fait aussi des doubles marquages BRDU et NEN, c'est-à-dire qu'ils ont regardé, au fond, si les neurones matures ont incorporé du BRDU au moment où on a fait courir ces malheureuses bêtes. Donc, ça identifie donc les cellules en phase très précoce, hein, BRDU nestine, et puis des cellules en phase tardive de mitose, BRDU DCX, et puis des cellules vraiment matures, quoi, post-mitotiques. Puis il y a un autre marquage qui s'appelle Ki67, qui permet de voir toutes les cellules qui prolifèrent au moment où on fait l'analyse, hein, au moment du sacrifice. Donc, cette diapositive, là, elle vous illustre l'existence d'une baisse du nombre des cellules en prolifération. Hein, vous voyez ça ici, vous avez chez votre animal, ici, là, c'est ici, hein, une baisse du nombre de cellules en prolifération et une remontée du nombre de cellules en prolifération quand on fait courir les souris. En fait, ça, ce n'est pas tellement étonnant, ça on le savait, mais ce qu'on ne savait pas forcément, c'est que l'injection de poly-IC baissait la prolifération des cellules. Donc ça, c'est Ki67, c'est donc à chaque instant, on regarde toutes les cellules qui ont incorporé, qui se sont divisées. Et puis, la restauration par l'exercice physique à des taux normaux. Un autre effet que je trouve assez intéressant concerne la maturation des cellules. C'est probablement l'effet le plus intéressant. En effet, on voit que le poly-IC a un effet sur les cellules DCX et NEN, et pas sur les cellules nestine. Donc ça veut dire, vous pouvez peut-être le mieux, c'est de regarder ici. Vous voyez qu'ici, vous avez les neurones des cellules DCX. Nestine, c'est donc les progéniteurs, hein, c'est les cellules souches, d'une certaine façon. Ici, vous avez les cellules DCX. Et ici, vous avez les neurones matures. Hein. Donc, quand vous mettez du poly-IC, ce qui se passe, en fait, c'est que vous réduisez le nombre de cellules DCX et aussi de neurones matures au profit de cellules immatures. C'est comme si vous bloquiez la différenciation de vos neurones. Maintenant, si vous faites courir vos cellules, si vous faites courir vos bestioles, entre contrôle courir et contrôle pas courir, il n'y a pas de grosse différence. Mais si vous faites courir vos bestioles, vous voyez que vous repermettez de nouveau la maturation de vos neurones, c'est-à-dire que vous passez de cellules qui ont de la nestine, qui sont donc en fait à ce niveau-là, vous leur permettez de repasser à ce niveau-là. Donc en fait, c'est comme si, d'une certaine façon, l'exercice physique peut permettre de récupérer un processus normal de maturation des neurones dans l'hippocampe. Hein, c'est des neurones de l'hippocampe, on voit ici, ça a été mesuré dans le dentate gyrus. Donc, contrairement à ce que disait Churchill, il y a peut-être un effet bénéfique du sport. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi un effet bénéfique de la nicotine. Il ne faut pas complètement négliger non plus. Donc, finalement, après un certain âge, hein, pas trop tôt, finalement, quid des télomères et de la reverse transcriptase, de la terte. Donc la longueur des télomères et l'activité de terte ont été mesurées maintenant dans les cellules qui expriment la protéine de surface PSA-NCAM. Alors c'est comme les cellules DCX, sauf que comme c'est un antigène de surface, on peut les purifier par des techniques qui sont des techniques de ce qu'on appelle FACS, c'est-à-dire on met un truc fluorescent contre la PSA-NCAM et donc on peut séparer les cellules à l'aide d'un faisceau laser et on n'a pas besoin de les abîmer. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un épitope de surface. Mais les cellules PSANCAM, c'est exactement comme les cellules DCX. Et donc, il y a un recouvrement de 100% entre les cellules DCX. Donc, les cellules PSANCAM sont des neuroblastes en division tardive, avant la maturation définitive qui s'exprime par l'expression de NEN. Hein. Donc, quand on suit l'activité reverse transcriptase, télomérase en l'occurrence, entre le premier et le 60e jour postnatal, qu'on se constate, c'est qu'il y a une baisse de cette activité chez les animaux contrôle. Hein. Il y a aussi une baisse de l'activité chez les animaux polyhissés, et avec une légère restauration liée à l'exercice physique. Vous voyez ici, ça c'est vos animaux. Ce sont des cellules, sont ces cellules-là, hein, enfin, entre ça et ça, ce sont des neuroblastes, c'est des neuroblastes, c'est des neurones immatures, mais ce sont des cellules qui sont encore capables de proliférer. Et vous voyez que, au cours du temps, vous avez une baisse de l'activité reverse transcriptase, télomérase. Alors, ils ont fait ça, si vous voulez, peut-être une petite erreur d'une certaine façon, je dirais. Je vous expliquerai pourquoi il y a peut-être une petite erreur quelque part. Mais autant vers P1, bon, en fait, les cellules normalement sont post-mitotiques dans le, parce qu'ils n'ont pas pris que les cellules. Non, excusez-moi, je confonds avec une autre manip. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de biais dans l'expérience. Il y a donc une baisse dans ces cellules, au point de vue de l'activité de l'homérase. Il y a une baisse, il y a une moins grande activité télomérase dans les cellules qui viennent d'animaux qui ont récupéré du polyhissé. Vous voyez qu'à P60, c'est quasiment 50%. Il y a une légère récupération par l'exercice physique. Hein. Vous pouvez aussi, à P60, rappelez-vous ce que je vous ai dit. La télomérase ne répare pas tous les télomères. Elle répare les télomères les plus courts. Hein. Donc, ce qu'ils ont regardé aussi, c'est la longueur des télomères. Donc, c'est facile de regarder la longueur des télomères. Prenez une sonde qui est complémentaire du TTA-GGG et vous la marquez avec un FITC, en fait, ce qu'on appelle du FISH, c'est-à-dire un marquage par fluorescence de vos morceaux de télomères. Donc, vous pouvez mesurer la longueur de vos télomères. Télomères de la souris, en l'occurrence. Donc, si on fait ça, on voit qu'il y a une diminution de la longueur des télomères. Ça, c'est clair, hein. Entre, alors voilà, c'est comme ça que ça fait. Vous voyez, c'est les bouts des chromosomes. Là, vous voyez mieux comment ça ressemble. Ça, ce sont des bouts de chromosomes. Et ça, c'est en vert, là, c'est la longueur des télomères pour chacun de ces chromosomes. Donc, il suffit de mesurer la distance. Voici la distribution chez un animal de la longueur des télomères. Vous voyez que c'est quand même très distribué. Ce n'est pas homogène. Et ça, c'est chez un animal qui a reçu du polyhissé. Donc, ça recouvre avec l'animal normal, mais c'est clair qu'il y a moins de télomères longs, il n'y a plus de télomères courts chez cette bestiole-là. Donc, il y a une diminution de la longueur des télomères, mais ce qui est clair, c'est que la course à pied, l'exercice physique chez ces bestioles, est sans effet sur cette diminution. Hein. Et ça, ça suggère que l'augmentation faible de l'activité que vous voyez ici avec la course n'est pas suffisante pour augmenter la longueur des télomères. Alors, d'où vient l'amélioration comportementale? Eh bien, ça nous ramène à la remarque que j'ai faite au début du cours, qui est que cette augmentation touche seulement quelques télomères, les plus courts, et que cela n'est probablement pas mesurable, même si les effets de ce rallongement limité sont bénéfiques. Donc peut-être que ce qu'on peut mesurer ici n'est pas suffisamment exact pour rendre compte d'un effet bénéfique de l'augmentation de l'activité télomérase avec l'exercice physique. Parce qu'en fait, c'est vraiment qu'un petit nombre de télomères qui sont touchés et que ça peut suffire éventuellement. C'est une interprétation, hein. J'ai pas fait la manip. Hein. Voilà. Donc, si on reprend l'ensemble de ces données, on constate donc, je pense, un effet bénéfique sur le comportement avec une corrélation avec la neurogénèse et l'activité de la télomérase, avec des doutes sur la longueur des télomères, ça c'est clair. Mais il faut bien admettre que nous restons là au niveau de quelque chose qui reste des corrélations. Une expérience importante aurait été de vérifier, comme j'ai dit tout à l'heure, que cette amélioration est perdue si on bloque la prolifération des cellules souches. Hein. Mais ça n'a pas été fait, donc ça, c'est dommage. Et par ailleurs, deux éléments me paraissent extrêmement intéressants. Le premier, c'est qu'il existe une baisse de l'activité télomérase avec le temps dans les cellules DCX. Hein. des animaux contrôle. Donc nous perdons une activité télomérase dans nos cellules. Et que si l'exercice physique augmente légèrement cette activité, cela n'a pas d'effet mesurable sur la longueur moyenne des télomères. Et j'insiste bien sur la longueur moyenne des télomères. Alors, il y a un caveat, évidemment, dans cette manip, de nouveau, c'est qu'elle n'a été faite que sur le compartiment DCX, c'est-à-dire sur les neuroblastes relativement âgés. Et il y a d'autres cellules qui prolifèrent. Il y a les cellules souches en particulier. Il y a les cellules du compartiment d'amplification. Et puis, il y a les neuroblastes. Donc, ça a été fait sur ce compartiment-là. Ça n'a pas été fait sur ces trois compartiments-là, ou à peine sur celui-là qui exprime vaguement DCX et donc PSA NCAM. Donc, la souris, en tout cas chez la souris, 90% des neurones, c'est autre chose, qui sont nouvellement formés, meurent, comme vous le savez, depuis l'année dernière, avant de s'intégrer dans un réseau de neurones. Donc, au fond, il ne m'en reste que 10%. C'est-à-dire que je fais, pour 100 neurones que je fais au cours de la neurogénèse chez l'adulte, il y en a 90 qui passent à la poubelle et qui sont mangés par les macrophages. Pour ceux d'entre vous qui étaient l'année dernière, ils le savent, mais enfin, je vous le rappelle. Donc, il n'y en a que 10% qui s'intègrent au réseau de neurones, et à la limite, ça peut largement nous suffire. Les autres deviennent postmitotiques, et donc, comme ils deviennent postmitotiques, ils ne raccourcissent plus leurs télomères, puisque quand j'arrête de me diviser, je ne raccourcis plus mes télomères. Mais vous allez voir qu'il y a un truc qui n'est pas rigolo non plus là, mais bon, ce n'est pas très grave. Attendez, je n'ai pas besoin de vous donner toutes les mauvaises nouvelles du premier coup. C'est déjà pas drôle. Enfin, moi, ça me fait rire quand même, je ne sais pas pourquoi. C'est mon mauvais fond. C'est pas parce que les cellules meurent, c'est 90% de cellules qui meurent, c'est pas parce qu'elles meurent qu'elles ne peuvent pas avoir une activité importante. Et ça, il faut savoir que les cellules qui meurent peuvent avoir une activité trophique, par exemple transitoire. Elles peuvent sécréter des choses qui peuvent être importantes pour les cellules qui restent en vie. Je ne dirais pas qu'elles se sacrifient pour elles, ce serait un peu exagéré, mais une cellule qui meurt ne meurt pas forcément sans laisser une trace qui peut être utile pour celle qui reste. On peut aussi supposer que l'entraînement physique des souris, là, est de trop courte durée. C'est ce que suggèrent les auteurs pour avoir un effet visible, mesurable, sur la longueur moyenne des télomères. Mais outre que cette population cellulaire n'est peut-être pas la plus intéressante, il faut avant tout, excusez-moi de me répéter, tenir compte, et ça c'est quelque chose que je pense est vraiment important, des travaux qui contestent cet intérêt de la mesure de la longueur moyenne des télomères. Donc ça, c'est important parce que ce sont les télomères les plus courts qui sont rallongés en premier, sinon c'est sénescence et apoptose, et voilà quoi. Donc on en reste là avec un... Oui. Vous voulez dire des mots croisés ? Ou venir à un cours au Collège de France, par exemple ? Sur la prolifération ? Je ne peux pas vous dire, ça n'a jamais été, on n'a jamais... Ce qu'on pourrait, c'est vous faire une injection de BRDU avant l'entrée, et puis regarder à la sortie, mais je ne sais pas comment on ferait, mais c'est... Mais non, bien entendu, je pense que les choses les plus rigolotes qui ont été faites dans ce sens-là, c'est les antidépresseurs. C'est-à-dire que c'est tous les travaux qui ont été faits par le groupe de René Haine et puis les gens qui l'ont suivi, qui ont montré que, par exemple, si vous êtes déprimé, en fait, la neurogénèse diminue. C'est-à-dire que c'est quand même à voir avec l'activité cognitive, libidinale, enfin toutes ces choses-là dont on ne parle pas, mais qui sont très importantes malgré tout. Il n'y a pas que le cerveau dans la vie. Et donc... Et si on vous donne un antidépresseur, normalement les antidépresseurs, par exemple, comme les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, ça devrait marcher dans les 3 jours, puisque c'est un problème d'augmenter la quantité de sérotonine dans la fente synaptique. Or, en fait, on voit les effets bénéfiques de ces médicaments qu'un mois après. C'est un truc qui est classique. Et c'est comme ça que les gens se sont dit, il y a peut-être autre chose derrière. Et l'idée qui est développée par René Haine et par les gens qui suivent, c'est que cette chose derrière qu'il y a, c'est que en fait, ces inhibiteurs de recapture de la sérotonine augmentent la neurogénèse. Donc en fait, que c'est cette augmentation de neurogénèse qui redonne de la libido intellectuelle, bien entendu, aux humains qui souffrent de ces syndromes dépressifs. Et donc ils ont fait des manips chez la souris. Vous savez, on peut faire un peu de dépression chez la souris, on la tient par la queue, et puis quand elle arrête de s'agiter, c'est qu'elle est déprimée. Donc, c'est pas vrai, Jean? Et on voit que si on bloque sa neurogénèse, elle se déprime plus vite, même quand on lui donne du Prozac, qui est donc l'inhibiteur de recapture. Donc oui, vous avez raison, il y a évidemment un effet de l'état mental des souris, en tout cas, sur la neurogénèse. Donc il n'y a pas que la course à pied, je suis d'accord. On peut faire d'autres sports, je sais. Ne me poussez pas dans mes retranchements, soyez gentil. J'ai trop tendance à aller de l'avant dans ces questions-là. Donc, où est-ce qu'on était, moi? Vous m'avez perturbé. Voilà. Donc, je vais finir cette discussion. Mais je suis content que vous posiez des questions, parce que c'est vrai que cet amphithéâtre est un peu gélifiant. Si vous posez des questions, moi, je suis ravi. Je me sens plus à l'aise. C'est plus agréable. Donc cette discussion-là, je vais la terminer en revenant à la zone subventriculaire. Donc, on quitte l'hippocampe, on revient à la zone subventriculaire, là, qui est la deuxième zone, comme vous le savez, de prolifération, qui est celle-là, la SVZ, qui est là. Donc, je vais revenir à travers un article qui est, en fait, assez ancien, assez ancien, peut-être 2006 quand même, oui, assez ancien. Tant que ça? Non, 2011. Qui s'intéresse aux cellules, non pas de l'hippocampe, mais aux cellules justement de la zone subventriculaire. Alors, chez la souris, contrairement à Sapiens, si on veut bien suivre Friesen, et moi j'ai un peu de réticence à suivre Friesen là-dessus, mais on verra, ces cellules contribuent au renouvellement des populations neuronales qui sont spécifiques du bulbe olfactif. Donc en particulier, il y a deux populations neuronales. Il y a les populations qui sont les granulocelles, qui sont des cellules qui synthétisent le GABA, et puis vous avez les cellules périglomérulaires ici, qui sont des cellules dopaminergiques, qui sont marquées par la tyrosine hydroxylase en particulier. Donc, ces cellules, les précurseurs, sont générées à partir des cellules souches de la SVZ qui prolifèrent, qu'on peut les voir, elles ont un marqueur, elles expriment la GFAP, elles ont des facteurs de transcription spécifiques, en particulier une protéine qu'on appelle SOX2, une autre qu'on appelle PAX6, etc. Donc on peut très bien les identifier. Et elles se divisent lentement, ce sont des cellules souches. Les cellules souches se divisent lentement, ça faut le savoir. Et ça, c'est important parce que ça peut préserver leur télomère. Quand je me divise lentement, j'use moins mes télomères. Donc, surtout si je suis riche en télomérase, ce qui est le cas en général des cellules souches. Donc, mais elles sont amplifiées, je vous l'ai dit plusieurs fois, au niveau du comportement d'amplification. On imagine facilement un raccourcissement important des télomères. Donc, ce qui veut dire que les neuroblastes qui continuent de se diviser, quand ils vont se promener, là, ils s'amplifient là, ils continuent à migrer, là, ils continuent de se diviser, ils sont dans ce qu'on appelle le rostral migratory, stream, merci. Heureusement qu'il y a des spécialistes dans la maison. Et ils vont envahir le bulbe, quand ils arrivent là, ils passent dans une direction ce qu'on appelle radiaire, ils ont là une migration tangentielle, ensuite ils montent en radiaire, mais pendant toute cette période où ils se promènent, ils prolifèrent. Et en plus, ils ont été amplifiés. Donc pendant tout ce temps-là, ils ont raccourci leur télomère. Donc quand ils arrivent, ils sont déjà assez réduits au niveau télomérique. D'accord. Donc on imagine assez facilement qu'il y a eu un raccourcissement important des télomères dans ces neurones post-mitotiques au niveau du bulbe. Il y a là forcément une inégalité entre les neurones. C'est-à-dire que ils n'ont pas tous forcément les télomères aussi courts, et même une inégalité entre les différents télomères à l'intérieur d'une même cellule. Parce que je vous disais qu'il y a une hétérogénéité dans la longueur des télomères. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser sur la base de cette distribution que là je vous ai montrée pour l'hippocampe, et que je vous remonte de nouveau, de cette longueur télomérique. Donc vous allez voir que cette aujourd'hui ou la semaine prochaine, ou le 18, pardon, vous allez voir que cette inégalité peut avoir des conséquences extrêmement importantes fonctionnelles du neurone adulte. C'est-à-dire que le neurone, en fonction de la longueur de ses télomères, qu'il a hérité du comportement d'amplification et puis des quelques divisions qui se sont passées au cours de sa migration, en fonction de la longueur du télomère, va avoir une forme différente. En fait, il va avoir des dendrites d'une taille différente, il va donc avoir une physiologie différente. Donc si, par malheur, vous vieillissez, et vous avez des cellules souches qui ont des télomères même un peu plus courts, vous avez même les neurones que vous allez renouveler, ils vont aussi avoir des télomères plus courts. Et même si vous faites de nouveaux neurones quand vous êtes âgé, ça c'était la mauvaise nouvelle que je gardais, il ne peut pas y avoir que de bonnes nouvelles, eh bien ces neurones vont être plus courts et donc ils vont possiblement avoir une physiologie un peu déficiente. En particulier, vous verrez, l'arbre dendritique est pas mal réduit, en fait, est pas mal réduit. Donc, c'est à partir de cette possibilité d'une signification physiologique, ou plutôt physiopathologique, de la taille des télomères, que j'ai été rechercher des articles, et que j'ai retrouvé un article d'un type qui s'appelle Ferron, et des collègues, publié en 2009, qui justement porte l'accent sur la différenciation des neurones ayant de petits télomères et sur le trouble que cela peut induire, même si ces neurones n'en meurent pas, ou pas tout de suite. C'est un peu comme les animaux malades de la peste. En bref, la question est de savoir si certains neurones peuvent naître vieux, puisqu'après tout, on a l'âge de ces télomères. Ah oui. Donc cet article de Ferron et collègues commence par rappeler que le vieillissement chez les mammifères est associé à une réduction de l'activité des cellules souches dans différents organes, ça c'est dans tous les organes pratiquement, avec pour conséquence une modification du turnover cellulaire et donc une diminution de la réparation des tissus. Les mêmes auteurs rappellent que la neurogénèse adulte, et là je viens de vous montrer, décline avec l'âge, en tout cas chez les rongeurs. Vous avez vu que chez Sapiens, dans l'hippocampe, c'est quand même plus encourageant. Même si finalement, vous allez voir, c'est peut-être pas si encourageant que ça, mais bon. Même si les raisons du déclin sont peu claires et probablement variées, incluant des modifications de la niche, il y a des cellules souches, donc des facteurs extrinsèques, et aussi des facteurs intrinsèques qui sont propres à la cellule elle-même. Donc, alors, les auteurs s'y réfèrent souvent, donc je vais commencer par un article qui est un peu plus ancien, du même groupe. C'est souvent que les chercheurs se réfèrent à leurs propres travaux, ça augmente leur âge facteur, et qui décrit le rôle du raccourcissement des télomères dans la neurogénèse adulte. Alors, il y a une différence entre neurogénèse embryonnaire, qui est peu affectée, et la neurogénèse adulte. Donc je discuterai principalement la neurogénèse adulte, c'est ce qui nous intéresse le plus ici. Ce qui est logique, puisqu'on a un cours sur la longévité. Donc, je commence par vous rappeler que les souris qui sont mutantes pour TRC, alors TRC c'est l'ARN, hein. Donc, on peut muter pour la reverse transcriptase, mais si je mute, ou je diminue, ou simplement je fais un knock-out, je supprime l'ARN qui sert de substrat pour rallonger mes télomères, c'est pareil, je n'aurai plus de rallongement de mes télomères. Donc, je peux retirer cet ARN, hein. Donc voilà, si j'ai cette mutation qui retire tout ça, il est évident que je peux avoir autant de télomérase que je veux, je ne vais pas rallonger mes télomères. Donc il y a des souris dans lesquelles on a fait la mutation, on a délété cet ARN, et ces souris sont viables, hein. Elles se reproduisent, et elles perdent 5 kilobases de télomères par génération. D'accord ? Donc, première génération, je perds 5 kilobases, deuxième, j'en perds 5 kilobases. Alors vous allez voir, les souris de laboratoire ont des très gros télomères, donc 5 fois plus gros qu'une souris normale, 5 fois plus gros qu'un sapiens normal. Voilà, donc même les sapiens de laboratoire ont des petits télomères. Donc c'est fait que pour travailler sur ces souris qui ont des télomérases, qui ont perdu la capacité de faire des télomères, on attend la quatrième génération où elles ont commencé à avoir des télomères à peu près normaux et on travaille sur ces souris au bout de la quatrième génération. Quand à chaque fois, au bout, elles ont perdu 20 kilobases, quand même, à ce moment-là. Donc, sur cette diapositive ici, là, ce que vous pouvez voir, c'est que le marquage au BRDU, c'est-à-dire, en fait, la prolifération de mes cellules. Est-ce que je vois ça? Oui. Et elle est fortement réduite. Hein, voilà, c'est ici le nombre de cellules qui sont marquées dans la SVZ est fortement réduite chez des souris par rapport à qui en sont à la quatrième génération. Vous voyez que ce soit pris dans les régions antérieures ou dans les régions postérieures, ce n'est pas tout à fait les mêmes cellules, mais ce sont quand même des cellules de la zone subventriculaire. Vous voyez que vous avez une diminution assez importante de la prolifération. Et ce que vous voyez aussi, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la taille de votre bulbe olfactif a diminué. Donc ces cellules, elles participent à la reconstruction chez l'adulte, à la régénération du bulbe olfactif. Parce que si vous empêchez de diminuer de moitié la prolifération, vous diminuez de moitié la taille de l'organe. Donc ça, c'est pas rien comme diminution. Une autre structure qu'on appelle le striatum, qui est une structure sous-corticale, qui n'est pas très loin du bulbe olfactif et qui est aussi à l'avant du cortex, elle, et qui n'est pas l'objet d'un renouvellement neuronal, n'est pas modifiée dans son volume. Donc, je passe sur certains aspects du papier qui sont consacrés à la seule neurogénèse embryonnaire. Je vais passer sur des techniques qui consistent à mettre ces cellules dans des conditions mitogéniques. Alors, on prélève les cellules de la SVZ, et puis on les dissocie, et puis on les met à proliférer sous forme de... Alors, vous voyez aussi ici, excusez-moi, vous voyez qu'on a, là, on voit la modification de l'incorporation de BRDU le long de la zone subventriculaire. C'est là qu'est la zone subventriculaire. Ça, c'est clair. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup moins de cellules qui sont en prolifération. Donc, vous pouvez prendre ces cellules et puis vous pouvez les mettre en culture. Et quand vous les mettez en culture, elles vont faire ce qu'on appelle des neurosphères. Donc, une neurosphère, c'est en fait, en général, il y a une cellule isolée qui va proliférer et faire une petite boule. Et toutes ces cellules-là, elles dérivent d'une seule cellule. Et puis, vous pouvez regarder. Puis, vous pouvez les prendre, les dissocier et refaire ce qu'on appelle des neurosphères secondaires. Donc, ils ont fait ça. Et ils ont regardé donc... alors, plus la boule est grande, et plus ça prolifère vite, ou plus ça meurt lentement. Il y a deux possibilités. Mais c'est probablement un problème de prolifération, parce que vous voyez ici l'incorporation de BRDU qui est bien moindre dans les cellules. Ça, c'est la quatrième génération après la mutation. Donc, c'est toujours pareil. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez, dans le cas de ces neurosphères-là, qui sont beaucoup, la plupart des neurosphères ont des tailles qui sont inférieures à 20 à 60 microns. Donc vous voyez ici en blanc, pendant les neurosphères primaires comme dans les neurosphères secondaires, l'essentiel de vos neurosphères, en fait, sont de petite taille dans la souris mutée. Donc vous diminuez la prolifération de vos neurosphères. Ça, on le voit évidemment essentiellement à partir de la quatrième génération, j'ai dit, en G4, donc de souris mutées, pour les raisons que je vous ai dites plus tôt. Donc, les sphères sont majoritairement d'un diamètre inférieur à 60 micromètres, ce qui n'est pas le cas des sphères préparées, des neurosphères préparées à partir des souris sauvages. Et il en va de même pour la vitesse de croissance et l'incorporation, je vous ai dit, de BRDU, qui illustre et quantifie, en fait, la prolifération, ça c'est la vitesse de croissance, vous voyez qu'elle est beaucoup, beaucoup diminuée. Ce que vous voyez ici, c'est l'incorporation de BRDU dans vos cellules, il y en a beaucoup moins dans les cellules mutées. Donc, cette différence qu'on voit ici, est-ce que je vais pas me tromper là, voilà. Il y a un moment où je finis par me prendre les pieds dans le tapis à tous les coups, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas pareil. Là, ce que je voulais montrer, c'est que c'est pas pareil pour les cellules embryonnaires. Donc, si je prends maintenant des neurosphères à partir de souris embryonnaires, qui ont aussi des neurosphères, à ce moment-là, ce que je vois, c'est que même à la cinquième génération, je n'ai plus de différence. Donc, en fait, c'est une différence qui n'apparaît que chez les souris qui ont déjà un ensemble de tours au compteur, si j'ose dire. La révision des 50 000. Donc, La raison en est très probablement, vous voyez qu'ici, je ne fais plus de différence entre le mutant et le non-mutant, j'ai les mêmes taux d'incorporation, j'ai les mêmes vitesses de croissance, j'ai les mêmes tailles de neurosphères entre mes mutants et non-mutants. Et ça, ça s'explique très probablement par le fait que les cellules adultes sont passées par un grand nombre de divisions et que les télomères sont encore plus raccourcis que chez l'embryon. Et ça, ce que ça vous dit quand même, c'est que au cours de la vie adulte, nous raccourcissons nos télomères. Ça, c'est pas une excellente nouvelle. Donc, ça nous amène à jeter un petit coup d'œil sur la longueur des télomères, des cellules souches neurales, chez la souris sauvage et chez les souris mutantes. Et ça, c'est fait par les techniques d'hybridation que je vous ai montrées, de FISH, sonde fluorescente, que je vous ai décrite un tout petit peu plus haut. Et là, vous pouvez voir sur cette diapositive les mesures de vos télomères, pas des vôtres, ceux des souris. Et c'est assez clair. Vous avez ici un animal 6 jours après la naissance. Et ici un embryon. Pourquoi je mets P6? J'ai dû faire une erreur quelque part, excusez-moi. Mais bon, ça c'est un animal adulte. Et ça c'est un embryon. Et vous voyez que si vous regardez la distribution de la longueur des télomères, cette distribution montre que vous avez plus de télomères de grande taille chez l'adulte, chez l'embryon, que chez l'adulte. Et si vous regardez la longueur moyenne, avec le caveat que la longueur moyenne, ce n'est pas forcément la chose la plus importante à regarder, vous avez une diminution, disons, de 2200 à 1560, sur des unités arbitraires. Et si vous prenez un mutant 4e génération adulte, vous voyez qu'entre l'adulte muté et l'adulte sauvage, vous avez maintenant une baisse de 1560 à 1059 avec une réduction de la moyenne des télomères, mais aussi moins de télomères de grande taille. Évidemment, pareil chez l'embryon, si vous prenez un embryon maintenant de mutant, vous voyez qu'il a une longueur moyenne de 1200 ou 1300, ce qui correspond au fond à ce qu'on trouve chez un... C'est même inférieur à ce qu'on peut trouver chez un adulte. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des embryons qui sont nés vieux. Ils naissent avec des vieux neurones quand ils ont des télomères courts, parce qu'ils n'ont plus d'activité d'ARN en l'occurrence, mais c'est comme s'ils n'avaient plus d'activité télomérase. Donc, de nouveau, je vous attire votre attention sur le fait que ce que vous voyez ici, c'est une distribution, mais aussi que, bien entendu, les cellules embryonnaires des mutants ont l'âge télomérique des cellules adultes. Elles sont nées adultes. Et quand je vous disais qu'on a l'âge de ces télomères, ce n'est pas entièrement faux. On a effectivement l'âge neuronal de ces télomères, et pas uniquement neuronal, parce qu'il n'y a pas que le cerveau dans la vie. Même si c'est notre organe préféré. Donc j'ai souligné un certain nombre de fois le raccourcissement des télomères au-delà d'un certain seuil active des voies de signalisation qui sont associées avec les lésions de l'ADN. Un des read-out de ce raccourcissement, c'est l'induction d'une protéine qu'on appelle P53, qui est une protéine qui est activée au cours de la sénescence et qui est capable d'induire la mort cellulaire. Alors les auteurs ont recherché l'expression de P53 dans des cellules en culture adultes et embryonnaires, sauvages ou mutées, maintenant c'est relativement simple à voir, et le résultat il est parfaitement clair. Si vous prenez des cellules adultes normales, wild type, vous voyez que vos cellules souches neurales en prolifération, elles n'expriment pas P53, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas entamé un programme de sénescence et d'apoptose. Si vous prenez des cellules embryonnaires, c'est à peu près pareil, ça c'est probablement du bruit de fond, pas grand-chose, mais si maintenant vous prenez des cellules mutées, embryonnaires, il n'y a pas grand-chose qui se passe, il est trop tôt, c'est comme le coup précédent, on n'avait pas encore atteint le seuil critique, même si je m'en approche. Ça, c'est l'équivalent de ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais si maintenant je prends des cellules adultes qui n'ont pas une activité de restauration de la longueur, d'augmentation de la longueur de mes télomères, j'active P53 de façon extrêmement forte, c'est-à-dire que j'induis des programmes de sénescence dans mes cellules souches. Ce qui est évidemment n'est pas souhaitable. C'est comme ça. Donc, je pourrais continuer, bien entendu, sur les cellules embryonnaires et vous présenter le résultat surprenant de leur aptitude à proliférer, même avec des télomères courts, avec la présence de P53 et de fortes altérations cytogénétiques. Mais je ne vais pas le faire. Je vais le faire quand même. Donc, vous voyez ici que ces cellules souches, mais quand elles sont vraiment jeunes, sont moins sensibles, si vous voulez, à ce vieillissement. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas bien se terminer de toute façon. Donc, j'y reviendrai de façon un petit peu allusive, parce que ça, c'est un thème en soi intéressant, parce qu'en fait, même ces cellules, elles ont des altérations cytogénétiques. C'est-à-dire qu'elles vont faire des neurones. C'est-à-dire que dès qu'elles sont arrêtées de proliférer, elles vont arrêter de raccourcir leur télomère. Elles vont faire des neurones, mais ce sont des neurones de mauvaise qualité. D'accord ? Donc, c'est pas bon, même quand on est jeune, de voir des petits télomères. Donc, j'y reviendrai, parce que je voudrais passer maintenant à la question que j'avais commencé d'introduire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer aujourd'hui, mais sinon, je terminerai le 18. Parce que ça, c'est un article par lequel je suis passé pour vous parler de l'article suivant, qui est un article vraiment très amusant. Donc, là, je reviens donc sur mon affaire. Car si c'est bien de fabriquer de nouveaux neurones, il faut aussi que ces neurones servent à quelque chose, c'est-à-dire qu'ils se différencient et qu'ils s'intègrent dans les réseaux de neurones préexistants. Donc, ça, c'est vrai dans l'hippocampe, bien entendu. C'est vrai aussi dans le bulbe olfactif, en tout cas pour les rongeurs. Et je vais continuer sur le bulbe olfactif parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, même si, selon Friesen, notre neurogenèse est plutôt à chercher du côté de l'hippocampe. Donc, une première observation qui a été faite est que la neurogenèse dans le bulbe décline avec l'âge chez les rongeurs, ça, vous l'avez vu. Et en comparant le marquage au BRDU, donc qui marque les cellules qui, au moment de leur division, en les marquant avec des marqueurs qui sont la calrétinine pour les cellules des grains ou la tyrosine hydroxylase pour les cellules périglomérulaires, on va remarquer que la densité de cellules marquées est plus faible chez les souris âgées que chez les souris jeunes. Alors voilà ici ce qui se passe. Vous pouvez faire un marquage calrétinine qui va vous marquer vos cellules des grains. Vous pouvez faire un double marquage, évidemment, avec le BRDU. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est que alors là, c'est celles qui ont retenu le marquage, c'est-à-dire qu'elles ont du BRDU. Donc, vous voyez qu'à 2 mois, vous avez une certaine quantité de cellules nouvellement formées dans votre hippocampe, mais qu'à 12 mois, vous avez déjà quasiment 4 fois moins. Ça, je ne me souviens plus, excusez-moi, au bout de combien de temps après l'injection de BRDU, de l'expérience était faite, mais ça n'a pas tellement d'importance. Et là, que le pourcentage de cellules nouvelles par rapport au nombre total de cellules est de 5%, mais n'est plus que de 2% à 12 mois. Mais ça, c'est le vieillissement normal. C'est le renouvellement normal de vos cellules dans votre bulbe chez une souris qui a ses télomérases impec. Donc, et là, ce que vous voyez, c'est l'expression de la télomérase au cours du temps. Alors là, c'est une manip que j'aime pas beaucoup. Je vais vous dire pourquoi je l'aime pas beaucoup. Je l'aime pas beaucoup parce que ils ont pris la SVZ et ils ont pris aussi un peu de striatum. D'accord ? Or, quand on prend AE14,5, on sait très bien que dans le striatum, les cellules se divisent encore. Donc, c'est normal que vous ayez des fortes activités télomérase à E14,5. Donc, que ça baisse entre E14,5 et P3 de façon dramatique, ça peut correspondre simplement à le passage des cellules du striatum au stade postmitotique. Mais en revanche, ces cellules sont postmitotiques à P3, et donc cette baisse-là, entre P3 et P365, c'est-à-dire des souris vieilles d'un an, elle est réelle. Elle correspond effectivement à ce qui se passe dans les cellules souches neurales, c'est-à-dire une baisse très très importante, en particulier entre 1 mois et 12 mois, de l'activité télomérase. Et ça correspond à ce que vous voyez ici, entre 2 mois et 12 mois, 2 mois c'est 60, 12 mois c'est 365, vous avez un taux de renouvellement qui s'effondre dans votre bulbe olfactif. Maintenant, vous pouvez évidemment prendre des neurosphères et puis les préparer à partir de cellules de 2 mois ou de cellules de 12 mois et regarder aussi la longueur des télomères et puis l'expression de la télomérase. Et là, je veux dire qu'on ne peut pas voir une énorme, énorme différence, quand même d'un facteur 2. Hein. Ce que j'ai mis ici et ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est qu'on peut aussi, à partir de ces neurosphères, provoquer la différenciation en neurones. Pas uniquement en neurones, en oligodendrocytes, en astrocytes et en neurones. Et les neurones, vous pouvez les marquer par différents marqueurs. Ici, ils l'ont marqué par la bêta-3 tubuline, qui est un marqueur, c'est une tubuline spécifique neuronale. Et ils ont regardé la longueur des dendrites. Et déjà, là, je ne vous ai pas fait la quantification, mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe, qui ne va pas, quoi. Vos neurones ne se différencient pas normalement dans ce cas-là. Hein. Donc, cette baisse de télomérase a aussi été remarquée, je vous le dis tout de suite, dans le gyrus denté hein, en 2005, mais je reste sur la SVZ pour ma démonstration. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, l'avantage de la structure de la SVZ, c'est qu'on peut les préparer facilement les cellules à partir de l'adulte, ce qui n'est pas le cas des neurones de l'hippocampe, qu'elles produisent les neurosphères, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est beaucoup moins facile avec le gyrus denté adulte. Et si on l'ensemence justement sur des substrats particuliers, en présence de certains facteurs de croissance, en l'absence aussi d'autres facteurs de croissance, en particulier le GF, eh bien on peut induire la différenciation de ces cellules souches neurales, comme je vous l'ai dit, en oligodendrocytes, en astrocytes et en neurones. Et donc, les neurones sont visualisables, hein, on peut regarder à quoi ils ressemblent, eh bien, entre 2 mois et 12 mois, 2 mois et 12 mois, eh bien, le nombre de neurones est identique dans les deux conditions, mais celui des extrémités dendritiques, c'est-à-dire de la profusion de l'arborisation dendritique, n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on passe de 12,4 à 9 par neurone. C'est-à-dire qu'on diminue quand même de 30%, 40% la différenciation neuronale. Et là, il n'y a pas de mutation des télomérases. Hein. C'est juste le vieillissement normal. Donc, quand nos neurones... Oui. Merci. Mais parlez plus fort parce que je suis sourd. Eh bien, tout ce que j'ai lu tend à penser que ce sont des trucs normaux accélérés. C'est-à-dire que ce sont des neurones qui naissent vieux. C'est comme si vous naissiez avec des cheveux gris, ce qui n'est pas scandaleux d'avoir des cheveux gris. Mais naître avec des cheveux gris, ce n'est pas sympa, quoi. Voilà. Donc, et l'homme est inégal devant le vieillissement de ses télomères dans son bulbe pilaire, hein, pas olfactif, pareil. Donc, entre les individus, il y a des gens qui ont des cheveux noirs très très tard. Moi, j'ai un ami, il a 70 ans, il n'a pas un cheveu blanc. Il ne se teint pas, hein. Donc, entre sapiens et entre organes, il y a des différences à la longueur des télomères, et je pense que c'est le même mécanisme, c'est-à-dire que ça entre en sénescence à un moment donné, mais plus les télomères sont courts au départ et sont courts si on a des mutations de télomérase, plus on entre en sénescence rapidement. Donc, honnêtement, je pense que c'est très très proche. Alors, il y a peut-être des choses pires chez les gens qui sont mutés, bien entendu. Mais justement, c'est intéressant, vous avez raison de poser la question, c'est amusant parce que ça permet de penser un petit peu ce que c'est que le phénomène de vieillissement, y compris du vieillissement cérébral, malheureusement. J'en parle très à l'aise parce que, bon, j'ai un âge où je peux en parler, hein, donc tout va bien. Si j'avais 20 ans, je n'oserais pas dire des choses pareilles, mais bon, à 65, voilà. Je suis dans le lot avec vous. Certains d'entre vous, il y a des gens plus jeunes ici, mais bon. Comment ? Oui, bien sûr, oui.
Depuis le début de votre cours, ça me gêne parce que j'arrive pas à comprendre quelque chose.
Ah merde.
Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui sont comme moi. Moi, pour ça, j'ai les cheveux gris.
Allez-y, parce que on est. Oui.
Vous avez commencé votre cours en disant que le télomère est accroché au chromosome. Mais le chromosome, c'est pas une cellule.
Non, le télomère, c'est un morceau. Le télomère n'est pas accroché. Le télomère, c'est le bout du chromosome. Une partie du chromosome. Vous voyez ? Le télomère, c'est comme les doigts pour le bras. Vous voyez ? C'est le bout du chromosome. Le chromosome est dans la cellule. Mais le télomère, c'est le bout. Alors, quand je reproduis mon chromosome, j'ai ma DNA polymérase qui avance le long de mon chromosome et qui fait un deuxième brin d'ADN. D'accord ? Mais quand ma DNA polymérase arrive au bout, pour reproduire ça, il faudrait qu'elle aille jusque-là. Or, elle ne peut pas parce qu'elle s'appuie sur l'ADN. Donc, elle tomberait dans un trou. Donc, la DNA polymérase s'arrête là et de ce fait, elle ne peut pas reproduire le bout. Et ce bout, c'est ce qu'on appelle le télomère. C'est pour ça qu'à chaque fois, je raccourcis de la taille de ma DNA polymérase. Donc, je perds 5 kilobases. Voilà. Mais le chromosome, c'est dans la cellule, bien entendu.
Oui, c'est 100 à 600 gènes, donc 100 à 600 protéines, et une cellule, c'est fait.
Non, mais on parle de ce qui se passe dans le chromosome. Quand vous faites des cassures dans votre chromosome, vous activez des phénomènes qui sont des phénomènes de sénescence. Et c'est toute la cellule qui vieillit. C'est pour ça que je vous ai montré ce camembert avec les 9 parties, parce que il faut attendre la fin de l'histoire, hein. Si vous ne venez pas le 18 novembre, j'y suis pour rien. D'accord ? Donc, le 18 novembre, vous aurez l'intégron de la chose. Pour l'instant, ce qu'on regarde, c'est les différents éléments du vieillissement. Ce que j'espère, c'est vous montrer une synthèse de comment ça se passe globalement. Là, ce que j'essaie de vous convaincre, de vous expliquer, parce que, de vous montrer les données de la littérature, c'est que le raccourcissement des télomères entraîne un vieillissement de la cellule générale. Parce que justement, je casse mon ADN. Donc écoutez, je reprendrai ça le 18, parce que mais c'est mieux quand on peut discuter un petit peu. Je vous remercie tous de poser des questions, parce que ça permet d'éclaircir des points pour les gens qui ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit, ni aussi facilement, qui ne sont pas forcément actifs dans la science, mais en même temps, c'est mieux. Je vais m'arrêter, parce que j'ai un rendez-vous, il se trouve, après. On reprendra ça le 18 novembre, et puis on terminera le 18 novembre, puisqu'on aura fait nos heures. Je compte mes heures. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions brûlantes, je peux rester 5 minutes de plus.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.